Vous êtes sur RTL.
RTL.
Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Parfois je crois qu'ils vont chez moi.
Dans le journal inattendu.
On va en V1, on rêve, on parle. On va en V1, on rêve, on parle.
12h30, 13h30.
Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses.
Le journal inattendu de Julien Clerc avec Ophélie Meunier sur RTL.
On vous emmène.
Emmène-moi. Écoutez les sirènes, envoûtez les pêcheurs. Et tu seras.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Bienvenue dans Journal Inattendu.
Merci de me recevoir.
Nous sommes ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Terrien, votre nouvel album marque votre retour en France après 5 années vécues à Londres. Vous installer là-bas était un fantasme, un rêve que vous teniez absolument à réaliser. Mais c'est bon aussi de rentrer au pays, de retrouver sa famille, ses amis et le vivier de talents que nous avons. Pour les textes de Terrien, écrits et composés en France, vous vous êtes entouré de Clara Luciani, Jeanne Chéral, Marc Lavoine, Bernard Lavillier ou encore bien sûr votre fidèle Carla Bruni. Ils vous ont presque tous, à votre surprise, proposé des chansons sur des sujets sociétaux. Vous vous en êtes emparé avec retenue et élégance. Et il y a tout de même, sinon ce ne serait pas un album de Julien Clerc, de très belles chansons d'amour. Dans ce journal inattendu, on découvrira aussi vos passions, vos engagements, ce qui attise votre curiosité. Vous avez notamment choisi de recevoir Christophe Galfard, astrophysicien, car en bon terrien que vous êtes, vous voulez tout savoir sur l'exploration de la planète Mars. Mais avant cela, c'est le rituel au début de cette émission. Mon invité fait son autoportrait. Je vous donne une minute pour vous présenter. Alors Julien Clerc, qui êtes-vous ?
Mais je m'appelle Julien Clerc, je suis un compositeur, chanteur français. Ma première chanson est sortie le 9 mai 68, ça s'appelait La Cavalerie. Et le nouvel album est sorti le 12 février 2021, il s'appelle Terrien. Et depuis 53 ans, j'ai le bonheur de pouvoir faire pleinement mon métier, qui est d'inventer des mélodies, de mettre des textes en musique, d'écrire des chansons, enfin, que je peux encore entendre à la radio, et surtout chanter pour les gens qui aiment mon travail. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera dès l'été prochain, quand cette pandémie qui frappe le monde entier voudra bien nous laisser reprendre notre vie d'avant.
Les auditeurs d'RTL vous suivent depuis ces 53 ans. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Tout de suite, c'est les grands titres de l'actualité. Grosse opération de vaccination en Ile-de-France ce week-end. 56 000 doses devraient être administrées, soignants, infirmiers volontaires ou encore pompiers. Tout le monde se met à vacciner. Nous serons en direct avec les pompiers du 17e arrondissement de Paris dans un instant. Dans ce journal, nous partirons également en Irak pour suivre cette rencontre historique entre le pape François et l'ayatollah Ali Sistani. Le pape demande la paix et l'unité au Moyen-Orient, en particulier en Syrie. Des cinémas qui rouvrent et bientôt des salles de spectacle, ça se passe à Broadway et à New York. Les capacités d'accueil sont restreintes, mais les New-Yorkais sont ravis de voir à nouveau des films sur grand écran. Reportage de notre correspondante sur place. Et puis en foot, 16e de finale de la Coupe de France, clubs amateurs et professionnels se rejoignent tout le week-end. Au programme aujourd'hui, Lyon-Sochaux ou encore Brest-PSG. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Philippe.
On prend avec vous des nouvelles du temps ce week-end. Il fait beau, mais froid.
Il fait beau, mais froid, surtout pour la moitié nord, donc en effet on a un ciel parfaitement dégagé, mais au prix de ce vent de nord-est qui va accentuer le ressenti de froid, on aura entre 7 et 13 degrés pour la moitié nord, alors qu'en direction du sud c'est un ciel beaucoup plus variable avec même de l'instabilité qui va rester bloquée vers les Pyrénées ou encore près de la Côte d'Azur. Les températures seront-elles comprises entre 11 et 16 degrés avec la maximale de 17 pour la Corse.
Merci Claire. Vous nous retrouvez à 18h, Claire, parce qu'à 13h, c'est vous, Julien Clerc, qui faites
mais
la
oui,
météo.
Oui,
vous avez toutes les informations.
Le journal inattendu sur RTL.
Pour tenir les objectifs de vaccination en France, c'est-à-dire 30 millions de personnes vaccinées d'ici l'été, le pays doit mettre un gros coup d'accélérateur. Ce week-end, l'Île-de-France va administrer 56 000 doses de vaccins qu'elle a reçues en urgence. Et pour y arriver, tout le monde s'y met. Aurélia Valarié, vous êtes depuis ce matin avec les pompiers du 17e arrondissement de Paris. Bonjour Aurélia. Tout a dû se mettre en place en 24 heures chrono, hein?
Et oui, la caserne a été complètement métamorphosée pour le week-end. Explication avec le lieutenant Diécédric qui a dû enfiler dans la précipitation la casquette de responsable de centre.
Vendredi était une grosse journée hier, effectivement. On a eu l'information hier matin que l'on devait monter un centre de vaccination au sein du centre de secours. Et finalement, rapidement, on nous a mis à disposition tout ce qu'il nous fallait.
Du coup, vous avez troqué les camions pour une salle d'attente
Exactement, on a troqué les camions pour une salle d'attente, des chaises et des tables, des gels hydroalcooliques et puis un petit poste informatique pour le côté recensement des gens qui viennent. Et voilà.
Et j'ai rencontré ce matin Marie-Hélène, qui a 77 ans. Elle attend ce rendez-vous depuis plusieurs mois et elle est agréablement surprise par l'organisation.
Parfait. S'il pouvait y en avoir plusieurs, ils ont du courage et ils sont sympas. C'est des bénévoles.
C'est parti, on y va. C'est à votre tour. Ça va être rapide, vous inquiétez pas.
Je m'inquiète de rien, je suis tellement contente d'y arriver.
Et en moins de 15 minutes, en tout et pour tout, Marie-Hélène est vaccinée.
C'est super. Mais les militaires sont toujours comme ça. Ça doit leur donner beaucoup de boulot et que c'est pas leur métier. Le défi est relevé.
Défi relevé donc pour cette première matinée de vaccination à la caserne de Bussy où 500 personnes sont attendues ce week-end. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas si l'opération sera reconduite les prochaines semaines.
Merci Aurélie, en direct avec les pompiers de Paris. Julien Clerc, voir ces gens qui sont si contents là de s'être fait vacciner ce week-end, ça vous rassure de voir qu'on met un coup d'accélérateur en France ?
Oui, le coup d'accélérateur, il était bienvenu. Moi, j'ai lu qu'il y a quand même eu apparemment, je sais que d'ailleurs, il faut souligner que pour tous les gouvernements de tous les pays du monde, cette pandémie doit être difficile à gérer. Cependant, j'ai lu dans des articles qu'il y avait un ressenti dans tous les pays d'Europe d'un certain cafouillage au niveau de la communauté européenne. Il y a beaucoup de pays, d'après ce que j'ai compris, en particulier ceux de l'Est de l'Europe, qui ont commencé, il y en a un qui s'est tourné vers Israël, je crois qu'ils ont parfaitement réussi leur politique de vaccination. Et puis d'autres qui se sont tournés vers les Russes. Donc c'est bien si la communauté européenne arrive à rétablir ça, parce que c'est vrai qu'il faut que pour l'été on soit tous vaccinés quand même, ça serait formidable.
Mais que la vie redevienne un petit peu plus normal.
Oui.
L'autre grand titre de l'actualité, c'est cette visite historique du pape en Irak. François, chef des 1,3 milliard de catholiques, a rencontré ce matin le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse des musulmans chiites. Une main a été tendue entre les deux hommes après qu'Ali Sistani a déclaré « Les chrétiens d'Irak doivent vivre en paix ». Sur place, nous retrouvons l'envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard. L'autre temps fort de la journée, Émilie, c'est ce midi, le pape commémore Abraham à Our, là où ce dernier serait né et va présider une rencontre interreligieuse.
Oui, un moment hors du temps, en plein cœur du désert irakien, dans cette plaine de Our, qui selon les textes serait le lieu de naissance d'Abraham, patriarche des chrétiens, des musulmans et des juifs. C'est donc sur ce site ancestral qu'une prière interreligieuse a eu lieu, avec des représentants de l'islam chiite et sunnite, des yézidis, des chrétiens, des sabéens, toute la mosaïque religieuse irakienne. Il y a eu notamment la lecture d'un passage du Coran, puis des témoignages de plusieurs représentants religieux. Ensuite, un discours du pape dans lequel il a condamné les violences extrémistes contre les minorités.
Nous ne pouvons pas nous taire lorsque le terrorisme abuse de la religion. Au contraire, c'est à nous de dissiper avec clarté les malentendus. Ne permettons pas que la lumière du Christ soit couverte par les nuages de la haine.
Il a aussi eu des mots poignants pour la communauté yézidi persécutée par l'État islamique.
Aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui ont subi de telles souffrances, pour tous ceux qui sont encore dispersés et séquestrés, afin qu'ils puissent vite revenir chez eux.
Le pape a ensuite prié pour la paix et l'unité au Moyen-Orient et notamment en Syrie martyrisée, ce sont ses mots. Il n'y aura pas de paix sans une égalité pour tous, a conclu le pape François. Après la prière, le souverain pontife s'est entretenu quelques instants avec plusieurs figures religieuses présentes.
Émilie Beaujard, ça fait quasiment une semaine que vous êtes en Irak avec Jonathan Vincent Griveaux. Comment cette visite est suivie et perçue par la population sur place, par les Irakiens ?
C'est une visite effectivement très suivie par tout le pays. Le pape ici a tous les honneurs depuis son arrivée. Et surtout, c'est une vraie lueur d'espoir pour les 400 000 chrétiens d'Irak. Ceux que nous avons rencontrés ces derniers jours à Karakoche, Mossoul et Erbil nous l'ont tous dit à plusieurs reprises. Sa venue, ça montre qu'on n'est pas laissé de côté, que nous avons notre place ici en Irak.
Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL en Irak, avec Jonathan Griveaux. Ce soir, le pape célébrera donc une messe selon le rite oriental en la cathédrale Saint-Joseph de Bagdad. On vient en France aux conséquences économiques de la crise. L'équipementier automobile allemand Bosch va supprimer 3 emplois sur 5 de son usine de Rodez d'ici 2025. Cela fait 750 suppressions de postes. Bosch fabrique des injecteurs et des bougies pour voitures diesel, mais ces véhicules connaissent une grosse chute de vente. Les salariés dénoncent une trahison, eux qui avaient fait des efforts en accord avec la direction depuis 2018 pour sauver leur emploi. Et puis cette nouvelle soirée de violence près de Lyon, à Rieux-la-Pape, 13 voitures ont été brûlées hier soir, du mobilier urbain dégradé. 6 personnes ont été interpellées. Des échauffourées qui arrivent à peine 24 heures après celles du quartier de la Duchère. Les violences à Rieux-la-Pape seraient liées à des opérations menées contre le trafic de drogue. Dans un instant, on part à Broadway, aux États-Unis, où les cinémas reprennent vie peu à peu. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Julien Clerc, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Julien Clerc et Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité, nous partons à New York, aux États-Unis, où il nous ferait presque envie. Hein. Les cinémas ont rouvert hier, après un an de fermeture, avec bien sûr des règles strictes. 40% d'occupation des salles, des sièges vides entre les spectateurs qui ne sont pas du même groupe. Broadway et ses théâtres suivront le mois prochain. Remplissage autorisé, 1/3 de la capacité des salles de spectacle. Le reportage de notre correspondante à New York, Karine Auten.
Ce n'est pas encore un vendredi soir normal sur Broadway, mais un premier signe de reprise. Au cinéma AMC, 25 salles, le hall n'est pas très rempli et pourtant...
La plupart de nos séances
s'affichent complètes.
Parce que vous arrivez à capacité rapidement. Elena a rejoint une amie pour voir le dernier Disney, sorti aujourd'hui. Pour elle, il était temps que les cinémas réouvrent.
C'est un bon moyen de faire passer le temps ou aussi de se retrouver entre amis, surtout pendant la pandémie, parce que certains ne sont pas encore tout à fait à l'aise à l'idée d'aller voir un film chez les autres. Les gymnases sont ouverts, les restaurants aussi. En quoi c'est différent? Ils auraient dû faire ça depuis longtemps.
Masques obligatoires, nouveau système de filtration d'air, gel hydroalcoolique à disposition. AMC n'a pas hésité à s'aligner sur les exigences des autorités sanitaires, ce qui a rassuré Osama qui vient d'aller voir le film Chaos Walking.
Je voulais le voir en IMAX pour une expérience totale. Et c'était comme venir au cinéma pour la première fois. J'étais un peu anxieux. J'avais un peu peur. Je me demandais si j'allais attraper le virus, mais maintenant, je suis content d'avoir fait.
But now I'm glad I did it. I'm very happy.
Les salles de spectacle suivront le mois prochain, mais s'inquiètent déjà des manques de rentabilité alors qu'elles ne pourront accueillir qu'un tiers des spectateurs prévus.
Des gens qui vont voir des films, qui vont au théâtre, voir des comédies musicales, ça fait envie. Hein.
Oui, bah, il est temps que le spectacle vivant et les gens qui en vivent en fuite puissent reprendre. Il est vrai qu'on est étonné depuis des semaines et des semaines de voir les avions bourrés, les gens serrés les uns contre les autres et les salles de spectacle interdites d'ouverture. Mais bon.
Bientôt. On espère.
Bientôt, espérons.
En sport, du foot avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France. Hier, Boulogne-sur-Mer s'est imposé 2-0 face à Beauvais et Toulouse s'est qualifié contre Aubagne. Au programme aujourd'hui, pas moins de 9 matchs. À 14h15, Red Star contre Lens ou encore Alès en Cévennes contre Montpellier ce soir. 18h45, Lyon-Sochaux. Et à 21h10, Brest-PSG. Ce sera le dernier match des Parisiens avant le match retour contre le Barça mercredi en Ligue des Champions. Les rendez-vous de notre antenne ont refait le match à 18h30 avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot à partir de 20h. Avant de parler de Terrien, votre nouvel album, hier était diffusé le concert des Enfoirés. Vous faites partie de la troupe de cette grande famille depuis 1996, Julien Clerc. C'est une année particulière, concert à huis clos, pas de billetterie, donc un gros manque à gagner pour les Restos du Cœur. Mais quand même, plus de 9 millions de personnes étaient devant leur poste hier soir. Ça vous rassure malgré tout ?
Ben oui, ça me rassure parce que je sais pas s'il y a beaucoup de pays dans le monde qui font ça, qui font cette entreprise comme nous avons ici les Restos du Cœur, qui est à la fois une entreprise utile et en même temps fraternelle pour les artistes.
Je rappelle qu'un DVD acheté, c'est 17 repas distribués par les Restos du Cœur. Pour parler de Terrien, j'ai choisi, et je vous faisais la confidence à l'instant, de commencer par cette chanson que j'aime beaucoup, écrite par Clara Luciani, Mon Refuge.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras.
C'est une très belle chanson d'amour et surtout c'est incroyable comment ce titre a tout de suite porté l'album en fait, immédiatement.
Oui, on
c'est
a...
chouette d'avoir une chanson comme ça. Hein.
C'est chouette et puis c'est pas évident à écrire les chansons faciles ou en tout cas qui sonnent comme quelque chose de facile. On n'en a pas toujours dans l'album et pourtant, on peut faire des très bons albums sans avoir cette chanson qui, tire qui va tirer l'album et permettre aux autres chansons d'être connues.
C'est le titre aussi que j'aime, le mot refuge. Ouais. Ça a été quoi votre refuge pendant cette année 2020, Julien Clerc ? La musique,
mon refuge,
votre famille ?
Ça aurait été la musique la et musique. Puis évidemment les gens que j'aime, comme nous tous, mais la musique qui est mon éternel refuge.
Vous n'aviez jamais chanté autant de chansons sociétales sur un même album. Vous abordez la dépression, l'écologie, les femmes abusées, le Brexit, ou encore vous rendez hommage aux instituteurs et institutrices avec ce titre de Didier Barbelivien, Mademoiselle.
Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo.
Pour cet album, vous avez fonctionné comme d'habitude, vous avez reçu des textes et vous les avez ensuite mis en musique avec votre oreille qui vous guide. Vous avez ce talent de vous approprier les paroles des autres, ancienne génération ou nouvelle. Est-ce que vous sentez une différence d'écriture, de style entre les jeunes et les plus anciens, si je peux me permettre ?
Je recherche toujours les bons textes. Est-ce qu'il y a une différence ? Peut-être, je ne saurais pas trop vous la dire. Il est évident que, par exemple, quand j'ai reçu les textes de Clara Luciani, j'ai vu une espèce de fraîcheur, mais... Je ne sais pas trop vous dire où ça se situe.
Pas, ça se joue pas
je
là.
Suppose qu'il y a un style qui va avec chaque époque, mais moi, ce que je cherche, c'est les bons textes et je m'occupe pas trop de l'âge des gens qui les écrivent.
Dans Journal Inattendu, on découvre aussi vos goûts et inspirations musicales. Vous adorez le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Pourquoi cette œuvre en particulier ?
J'ai pris cette œuvre-là parce que c'est l'exemple de l'œuvre qui est le pont entre la musique classique et la musique moderne. Le compositeur Eric Carmen s'était inspiré de ça pour écrire une chanson qui était une chanson follement populaire dans le monde entier. Hein ?
All by myself.
All by myself. Ouais. Et donc, c'est l'exemple type. Gainsbourg faisait ça aussi souvent. S'il avait une grande culture musicale, il servait de ce qu'il connaissait dans la musique classique. Ça l'inspirait pour écrire de la chanson populaire.
On se retrouve dans un instant, Julien Clerc. On parle de votre nouvel album, Terrien. A tout de suite.
RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Julien Clerc.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Ma petite terre, ma soufrière, mon paradis sur mer. Mon souffle d'air, la mémoire de ma mère, ma révolutionnaire, mes
ma petite terre. Écrite par Marc Lavoine, qui fait référence à vos origines antillaises, l'amour de votre famille, votre grand-père, qui a eu une place très importante dans votre vie. Votre fille, Vanille, vient d'avoir un enfant. L'histoire se répète, finalement. Oui. La transmission, qu'est-ce que vous espérez transmettre à vos enfants et petits-enfants ? Tout comme vous, vous avez reçu beaucoup de ce grand-père guadeloupéen.
Oui, ce que j'espère, c'est une façon de se conduire à peu près bien dans la vie.
Oui.
Mais bon.
Il y a un héritage musical absolument incroyable. Et puis, il y a une conduite aussi,
Oui, mais leur parler aussi de leur... vous savez, on ne fait du bon futur qu'en se servant du passé. Donc, leur transmettre ça aussi, ce qu'étaient leurs grands-parents, ça en fait partie. Mais enfin, c'est, j'espère, ce qui se passe dans toutes les familles.
Dans cet album, il y a aussi le titre « L'amour des gens », écrit par Didier Barbelivien.
Pour passer
la rivière morte qui s'arrête au bout du temps. Au fond, tout ce qui m'importe, c'est d'avoir l'amour des gens.
On a pris conscience avec la crise sanitaire d'à quel point on avait besoin, au-delà de tout, ce qui est matériel, des uns des autres, des relations sociales. Vous êtes particulièrement touché par la condition des jeunes, Julien Clerc, en ces temps de Covid. Vous, quand vous aviez 20 ans, vous avez vécu une période géniale, vaste, heureuse. Vous n'aimeriez pas avoir 20 ans aujourd'hui ?
Non, moins que je pense que nous avions, les baby-boomers, nous avons eu de la chance. Nous avons vécu une période de l'humanité passionnante. D'abord, il n'y a jamais eu autant de progrès, on va dire, pendant notre vie. On a vu le monde changer et plein de choses arriver. Et puis, c'était une période un peu bénie qui donnait grande part à l'imagination. Il y avait un grand espoir dans l'avenir. C'était très créatif. C'était très libre sur le plan des mœurs. Donc, si vous voulez, sans épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, c'est vrai que ça a été une période. Alors, est-ce qu'on l'a bien employé ? Je ne sais pas. Notre génération, peut-être pas complètement bien, parce que aujourd'hui on se retrouve devant des problèmes en particulier écologiques, et peut-être que notre génération a une part de responsabilité là-dedans.
On va en parler aussi. Les jeunes se sont beaucoup ennuyés pendant le confinement, mais c'est terrible d'ailleurs d'en arriver là. Vous êtes mis pendant le confinement au yoga. Vous aviez besoin de méditer un petit peu ?
Non, enfin, c'est vrai, enfin, j'en ai fait un peu. J'ai essayé de faire du sport que je ne pouvais pas faire en extérieur. Donc, oui. Voilà.
Dans cet album, vous rappelez aussi que c'est important de poser aux autres cette question.
Et toi, ce soir, comment tu vas ? Dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi, ce soir,
comment tu vas ? Des paroles de Marie Bastide. Il n'y a que vous pour chanter de manière aussi élégante un texte sur la dépression.
Oui, enfin, c'est aussi un texte de... Effectivement, ça parle des gens qui plongent, mais c'est un texte de compassion, en fait, qu'elle a écrit là. Et c'est vrai que pendant toute cette période, moi, je pensais que c'était aux gens à risque, comme nous, enfin, donc les gens plus âgés, de faire attention pour essayer de ne pas trop condamner justement tous ces jeunes à rester enfermés dans leur chambre.
Comment tu vas ? Vous posez les questions plus souvent depuis que vous avez reçu la chanson de Marie Bastide.
Non, c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai un caractère plutôt à réagir. Si vous voulez, j'ai de la chance, je ne me suis jamais laissé comme ça entraîner vers le bas. Mais bon, j'ai une nature qui est comme ça.
Nous sommes sur RTL, avec des auditeurs qui vous suivent, qui vous aiment et qui vous connaissent depuis le premier jour. Alors pour eux, quelques-unes des musiques qui les ont accompagnés et qui ont marqué votre grande carrière.
Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Mais elle est ma préférence à moi. Fais-moi une place dans ton avenir pour que je ressasse moi mes souvenirs. Si j'étais elle, je laisserais que tout se glisse.
C'est très dur de choisir. Je ne le cache pas. Il y a quelques titres, mais il y en a tellement. Ils sont tous si beaux. Si j'étais elle, écrite par Carla Bruni il y a 20 ans. Et sur cet album, Carla Bruni vous offre une très belle chanson d'amour, Chaque. Comment ça se passe avec Carla Bruni ? Vous vous connaissez par cœur maintenant ? Elle sait ce que vous voulez chanter ? Vous savez tout de suite mettre en musique ses paroles ?
Oh non, pas forcément.
Non, pas forcément.
Non, 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 non. Ça se passe. J'attends ses textes. Et puis, si ça me plaît, je le mets en musique. J'ai la chance que toujours. Là, elle travaillait elle-même sur son propre album. Je n'ai reçu qu'un texte. Heureusement, c'est bien tombé. C'est un très beau texte.
Donc, elle vous connaît quand même assez bien. Alors, votre prochaine tournée s'appelle Les Jours Heureux. On vous retrouvera en décembre à Paris au Palais des Congrès et avant pour quelques festivals d'été, on l'espère.
Oui.
On l'espère. en décembre. Vous avez hâte de retourner sur scène?
Oui, 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 très hâte, parce que vous savez, moi aussi,
c'est toute votre
chanter,
vie aussi,
chanter
hein.
sur scène, c'est ça ma vie.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, votre reportage inattendu nous emmènera en plein milieu de l'océan. A tout de suite.
Et toi, ce soir, comment tu vas? Dis-moi, dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi, ce soir, comment tu vas?
Le journal inattendu de Julien Clerc avec Ophélie Meunier sur RTL.
Il est 13h sur RTL.
Le journal inattendu de Julien Clerc.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
La collecte nationale des Restos du Cœur a commencé hier et se déroulera jusqu'à demain dans toute la France. C'est un moment essentiel dans la vie de l'association car il permet de récolter des dons alimentaires pour distribuer des repas aux personnes dans le besoin toute l'année. Des personnes qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus affectées par la crise sanitaire, comme le constatent ces bénévoles dévoués.
Moi, je suis là depuis 3 ans. Il y a plus de jeunes et il y a plus de femmes. C'est des gens, ils ont leur maison, ils avaient un boulot, j'en ai discuté avec quelques-uns. Ils ont perdu beaucoup de choses. On fait tout ça parce qu'on sait que c'est dur. Mais quand on voit que ça s'empire, on est touché, oui.
Le premier confinement, le deuxième confinement, ça joue beaucoup. Et les liens qui sont perdus, c'est compliqué à retisser. Et c'est vraiment un travail très minutieux de tous les jours pour les bénévoles.
Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue et au lieu de me demander une attestation, elle me dit c'est pour savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter le virus. Et elle m'a dit, parce que moi, j'ai pas les infos, j'ai pas accès à la télévision, mais alors quand est-ce qu'il s'arrête? Parce que j'en ai marre et ça m'a fondu le cœur, quoi.
Des propos recueillis par Nerissa et Mani pour RTL et ils font un travail formidable. Des centres de vaccination ont été mis en place en 24 heures en Ile-de-France pour assurer ce week-end l'injection de 56 000 doses dans le département. Soignants, infirmiers volontaires, pompiers, tout le monde s'y met. Gros coup d'accélérateur du gouvernement dans la campagne. Désormais, elle aura lieu 7 jours sur 7, cette campagne de vaccination. Elle ne s'arrêtera donc plus le week-end. L'objectif restant d'avoir vacciné presque la moitié de la population d'ici l'été. En Irak, le pape François et le grand ayatollah Ali Sistani s'engage pour la paix. Le chef des catholiques est en ce moment en visite dans le pays. Une rencontre religieuse historique. Ce midi, François a entamé un pèlerinage à Our, ville natale d'Abraham, pour prier en faveur de la liberté et de l'unité, pour mettre fin aux guerres et au terrorisme. Il tiendra une messe ce soir en la cathédrale Saint-Joseph de Bagdad. Une pluie d'hommage pour Patrick Dupont, danseur étoile hors norme. Il nous a quittés à l'âge de 61 ans. Il a succombé à une maladie foudroyante. De nombreux jeunes danseurs ont posté de très émouvants messages sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir brillé si fort. Merci pour tout ce que tu as apporté à la danse. Patrick Dupont avait travaillé avec les plus grands chorégraphes avant de devenir le directeur du ballet de l'Opéra National de Paris. En foot, 16e journée de finale de la Coupe de France. 16e de finale, pardon, de la Coupe de France ce week-end, avec tous les débriefs et les matchs à suivre à partir de 18h30 dans On refait le match. Et puis dans RTL Foot, les rencontres du jour, il y en a 9, notamment Lyon-Sochaux ou encore Brest-Paris. Et le temps, à 13h, c'est avec notre invité. Alors Julien Clerc, apparemment il fera beau. Mais froid ce week-end.
Bah, tant mieux, moi je suis pour le froid en hiver. Alors, des conditions calmes et ensoleillées sur l'ensemble du pays, avec toutefois une alternance de passages nuageux et d'éclaircies en direction de la moitié sud. Quelques nuages porteurs d'averses resteront bloqués le long de la chaîne des Pyrénées. Le temps va également se dégrader au fil des heures près de la Côte d'Azur. Alors, côté température, il faudra compter avec ce vent du nord-est qui va accentuer la sensation de froid. Il fait actuellement 7 degrés à Lille, 10 degrés à Dijon, 8 degrés à Bourg-la-Reine, ville que je connais par cœur parce que j'y ai passé toute mon enfance. La maximale sera de 16 degrés près de la Méditerranée.
Mais vous faites ça très très bien. Sur l'album Terrien, vous posez cette question, Julien Clerc, quelle planète on laisse à nos enfants? À travers cette chanson écrite par le rappeur Vincha, La Rose et le Bourdon.
Des océans qui grondent aux déserts immenses. Nos âmes vagabondes ont perdu l'innocence. Pourquoi n'a-t-on rien fait? Pourquoi n'a-t-on rien fait?
Des océans qui grondent, pourquoi n'a-t-on rien fait? Vous avez beaucoup navigué? Vous nagez aussi beaucoup avec votre masque et votre tuba sur les côtes. Vous constatez la tonne de déchets plastiques sous l'eau, ça vous révolte. Pour votre reportage inattendu, vous vous êtes posé la question, que faisons-nous pour empêcher cela. Aujourd'hui, la société Tumsy est le leader mondial dans la collecte par chalutage de toutes les pollutions flottantes. C'est une société vendéenne qui ne cesse d'innover. Un nouveau procédé était justement testé cette semaine. Reportage en mer de Patrice Gabart.
C'est l'effervescence ce matin-là au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Thierry Tomaso, le patron de Tumsy et son équipe, embarquent un petit chalut gonflable anti-pollution pour un essai en mer, un essai jugé très important.
On va tester une nouvelle façon de le tracter. Ce chalut, il est utilisé depuis 17 ans par des marins confirmés, la Marine nationale, les marins pêcheurs. Et l'objectif, c'est d'essayer de le rendre encore plus facile à utiliser afin qu'on n'ait même pas besoin d'être un marin confirmé pour s'en servir. Et je vois dernièrement, on est allé former des gens à Jakarta, c'était des éboueurs. Les éboueurs, maintenant, ils ramassent les déchets dans la mer, tellement il y en a.
C'est la marée noire de l'Erika en 2000 qui conduit le pêcheur d'anchois à concevoir ce chalut. Et trois ans plus tard, le pétrole du Prestige consacre son prototype contre les pollutions marines.
On est passé de la pêche au poisson à la pêche aux déchets. Les pêcheurs sont les premiers à avoir vu la dégradation du milieu. Il y a 20-25 ans, on voyait déjà les plastiques arriver. Alors qu'avant, quand on pêchait dans la semaine, une ou deux boîtes de conserve en acier, c'est tout.
Sur le bateau, tous les regards se concentrent sur une corde bleue, une seule corde pour ouvrir et tirer le chalut contre deux habituellement. C'est ça, la grande nouveauté.
Vas-y, vire, encore un peu.
À la manœuvre, Florian Sarrazin, ancien pêcheur lui aussi.
Quand la marée arrive, surtout quand il y a des grands coefficients, et ben on se promène sur la plage, c'est vrai qu'on voit des kilomètres de plastique qui sont là, et c'est vrai que ça vient de la mer. Hein. De toute façon, les plus grands pollueurs, c'est l'être humain, c'est nous-mêmes. Hein.
Lâche tout! Ça marche! Bah ouais, c'est génial. Nous qui sommes de ce milieu, on sait que c'est une grosse avancée, ça. J'ai tiré sur un bout et l'engin de dépollution s'est mis en place. Et regardez-le, il n'a jamais été aussi bien.
Encore quelques réglages à effectuer, mais le petit chalut anti-pollution ratisse le moindre déchet plastique sur 7 mètres de large et 50 cm de profondeur.
En fait, on travaille avec une fondation bruxelloise qui s'appelle WFO, qui depuis 10 ans achète nos chaluts. Nous, on va les livrer dans le pays qui a été choisi et on va former les pêcheurs ou les navigants à la dépollution avec notre chalut.
Ainsi, Thierry Tomaso a déjà parcouru une quinzaine de pays à travers le monde pour s'attaquer au plastique dans les marinas, les estuaires et les zones portuaires.
J'ai l'impression que les gens n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation. Ce que j'aimerais dire à Julien Clerc, c'est aidez-nous. Merci de vous servir de votre notoriété et de ce que vous êtes pour dénoncer ce problème-là. C'est gravissime. C'est gravissime. Hein.
Aidez-nous pour dénoncer
c'est gentil,
ce problème.
Ouais. Ben c'est génial c'est aussi hein, que oui, c'est génial aussi par exemple que les pêcheurs puissent, avec leur connaissance de la mer, puissent faire ça. Moi, j'avais rencontré un monsieur il y a quelques mois qui travaillait dans une grande boîte de plastique. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de réfléchir, les gens qui fabriquent le plastique, à comment le défabriquer, si je puis dire, et à comment le faire disparaître. C'est un vrai gros problème, et je crois que c'est aussi un problème d'éducation. Il y a un monsieur dans le reportage qui l'a dit, les gros pollueurs, c'est l'être humain, donc il faut une prise de conscience générale dans tous les pays qui en particulier les pays qui bordent les mers, enfin, et en particulier la mer Méditerranée, qui est une mer fermée et qui est notre mer à tous.
Vous disiez tout à l'heure, jeunes, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, hein, surtout en matière d'écologie.
Non, je pense qu'il y a
pour faire en sorte de
c'est
prendre
pas personnel, mais je veux dire, c'est des gens de notre génération
de votre
qui étaient au pouvoir, donc on a une responsabilité. Oui.
Bon, après, vous ne saviez peut-être pas, on ne va pas dire que tout était de votre faute, mais en tout cas, certains font un magnifique travail. Dans un instant, votre invité, Christophe Galfard, astrophysicien, spécialiste de l'univers, il nous dira tout sur l'exploration de la planète Mars. A tout de suite.
N'a-t-on rien fait et que lui a-t-on laissé?
RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL avec Julien Clerc et Ophélie Meunier.
T'es rien qu'un point dans l'univers, rien qu'une poussière de poussière, t'es rien qu'une brindille sur les eaux. Quand la mer te prête son dos, t'es rien qu'un...
La chanson éponyme de l'album T'es rien, écrite par Bruno Guglielmi. T'es rien qu'un point dans l'univers. Bonjour Christophe Galfard, bienvenue dans le journal inattendu de Julien Clerc. Vous êtes
Bonjour.
Astrophysicien, ancien élève de l'immense Stephen Hawking. Vous êtes l'auteur du best-seller L'univers à portée de main. Vous confirmez hein, qu'on n'est rien qu'une poussière de poussière dans l'univers?
Bon, je pense que c'est même un petit peu prétentieux d'imaginer qu'on est une poussière.
Ça fait beaucoup rire, Julien Clerc, ce que vous venez de dire. En bon terrien, Julien Clerc voulait aujourd'hui tout savoir sur l'exploration de la planète Mars. Je rappelle que le rover Perseverance est arrivé le 18 février dernier hein, sur la planète rouge. Alors, quelles sont les dernières nouvelles que l'on a de Perseverance ?
Ben oui, parce qu'on pourrait croire que ça y est, le rover est arrivé et qu'il se passe plus rien du tout. Ben non, depuis qu'il est là-bas, en ce moment, les scientifiques sont en train de tester tous les instruments qui vont ensuite être utilisés pendant, on espère, plusieurs années pour essayer d'explorer le contenu du sol de Mars et en particulier de voir s'il a pu, on peut y trouver des traces de vie passée là-bas. Donc c'est quand même ultra excitant. Et là, par exemple, hier, ils ont fait une petite tentative de faire rouler, d'avancer le rover, ce qui a fonctionné parfaitement. Il a fait 4 mètres en avant, il est tourné un peu sur le côté, il est revenu en arrière. Ils ont essayé le bras qui va essayer de se déployer pour piocher des choses dans le sol. Et pour l'instant, tout fonctionne. Donc c'est super.
Alors, y a-t-il des Martiens sur Mars comme il y a des Terriens sur Terre? C'est la question évidemment que tout le monde se pose. Quand devrait-on finir par le savoir, Christophe Galfard?
Alors ça, c'est une question, on peut évidemment pas y répondre déjà, pas y répondre avec certitude, mais c'est la première fois, et ça je trouve ça vraiment chouette, c'est la première fois qu'on a un rover là-bas dont la mission est explicitement de rechercher des signaux de vie passée. Alors ça veut pas forcément dire des petits hommes verts qui seraient sur pattes et qui joueraient à la PlayStation, ça voudrait plus dire potentiellement une vie microbienne qui aurait pu exister il y a quelques milliards d'années là-bas lorsque la surface de Mars était recouverte d'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont posé le petit rover Perseverance dans ce cratère-là, parce qu'on est quasi certain qu'il y avait un lac là-bas il y a environ 3,5 milliards d'années. Mmh. On en voit encore la rivière qui déversait son eau dans le lac et le delta derrière où des déjections du lac étaient posées. Et c'est dans ce delta que Perseverance est allé voir. Donc la première étape, ça va être de creuser un peu, de voir s'il y a des choses intéressantes et d'analyser chimiquement ce que le rover trouve, mais pour une deuxième étape qui est beaucoup plus excitante, mm-hmm. qui est que Perseverance va mettre de côté des échantillons de sol martien qu'une fusée qui sera envoyée dans quelques années ira chercher pour les ramener sur Terre. Et c'est une fois que ces échantillons seront sur Terre que là, même si Perseverance trouve quelque chose sur Mars, on peut pas vraiment être sûr. En revanche, une fois que c'est ici sur Terre, alors là, on peut vérifier ce qui a été trouvé.
Qu'est-ce que ça va changer pour nous, vraiment, de découvrir qu'il y a de la vie sur Mars ?
Ah, alors, la vie présente, c'est quand même improbable. Hein. Je mettrais pas ma main à couper là-dessus. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Il pourrait y avoir des choses sous le sol, cachées, protégées du soleil, etc. Dans de l'eau qui pourrait traîner. Mais c'est plutôt de la vie passée. Alors, mais ça, c'est une des questions philosophiques les plus fondamentales qui soient. Hein. Sommes-nous seuls dans l'univers? Alors, si on trouve de la vie sur Mars, la réponse est non. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers.
Ça vous préoccupe cette question, Julien Clerc ?
Non, je me dis toujours, moi qui crois beaucoup dans le génie humain et qui espère énormément dans le génie humain, j'ai envie de poser une question bête. À quoi ça nous sert, ces recherches-là ?
C'est pas une question bête.
Alors, non, pas du tout. Alors, au-delà de la passion, au-delà de la curiosité pure humaine, c'est vrai qu'on peut se demander à quoi ça sert de mettre, là, elle a coûté 2 milliards environ cette expédition, à quoi ça sert de mettre tout cet argent alors qu'il pourrait aller ailleurs. Bon, alors, il y a plein de manières de répondre à cette question. L'une d'entre elles, c'est que, au-delà de cette curiosité, les données que ces expériences nous ramènent nous offre une vision totalement différente de notre planète à nous. Par exemple, on pourrait imaginer que le réchauffement climatique n'est qu'un hoax, qui est une nouvelle qui est fausse et que ça n'a aucun impact sur une Terre ou sur une planète, c'est pas possible. Et ben, c'est en regardant les planètes qui sont autour de nous qu'on voit ce que les réchauffements climatiques catastrophiques et les effets de serre catastrophiques peuvent donner. On peut voir sur Vénus, on peut voir sur Mars des effets différents de passés différents de planètes. Par exemple, sur Vénus, on voit que les effets de serre ont mené la planète à une température moyenne de plus 454 degrés. Donc c'est quand même ce genre de choses nous permet de voir ailleurs que au bout de notre nez et de nous rendre compte de la fragilité de notre monde. Ça, c'est évident pour moi et ça permet d'avoir des données fiables qui, cela étant dit aussi, appartiennent à tout le monde. Les données qui sont rapportées par des robots comme Perseverance sont des données qui sont open source. Tout le monde y a accès. Mmh. Tout le monde peut voir ce qu'il y a là-dedans. Un robot comme celui de Perseverance, même s'il a coûté 2-3 milliards, c'est des dizaines d'années de recherche, de travail,
par plusieurs nations qui se mettent ensemble. Donc c'est aussi il y a une sorte de paix qui s'installe entre les nations à travers ce genre de collaboration. Et c'est pour un prix qui est infime, ne serait-ce que par exemple, hein, sans vouloir faire de polémique, c'est un tiers ou un quart du prix de ce qu'on a payé pour des masques qu'on n'avait pas nous pendant la pandémie. Donc on remet en perspective aussi les chiffres gigantesques qui peuvent être donnés lorsqu'on imagine que c'est plusieurs nations et que c'est sur des dizaines d'années.
Mais c'est très intéressant de savoir que notamment ça nous aide aussi à mieux prendre conscience de notre environnement et de notre écologie. Vous citez souvent Carl Sagan, Christophe Galfard, il disait, Carl Sagan, si jamais on est les seuls dans l'univers, quel gâchis de place. C'est quoi votre intime conviction? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs?
Ah, moi, je suis absolument persuadé que oui, mais là, c'est une conviction. Je n'ai absolument aucune preuve scientifique à vous apporter là, maintenant. On n'en a jamais trouvé encore. Et je cite aussi Carl Sagan, c'est vrai, j'aime bien cette phrase. Et j'aime bien celle aussi de Stephen Hawking qui, lorsqu'on lui demandait s'il pensait qu'on trouverait un jour de la vie intelligente quelque part ailleurs dans l'espace, il répondait qu'il faudrait déjà en trouver sur Terre.
Merci Christophe Galfard, c'était un plaisir de vous recevoir pour encore mieux comprendre tous ces mystères. J'en à votre livre « L'univers à portée de main » chez Flammarion.
Merci beaucoup.
On a parlé musique, univers avec Christophe Galfard. Côté cinéma et musique, ça va ensemble. Vous aimez beaucoup le film « Out of Africa » et son générique extraordinaire.
Quand je raconte une histoire à mes nièces danoises, je leur demande toujours de me donner la première phrase.
Au hasard ?
Absolument au hasard.
Pourquoi ce choix de film et de musique ?
Parce que c'est un grand film d'Hollywood qu'aujourd'hui, bon, j'adore évidemment la musique, il y a des musiques de films qui sont des grandes musiques. Et celle-là en est une. Je pense que l'image de cet avion survolant, la beauté du paysage africain avec cette musique, c'est une image qui va m'accompagner toute ma vie depuis que je l'ai vue. Mais aussi, puisqu'on parle de cinéma, c'est une époque où Hollywood servait autre chose que les blockbusters et les franchises qui sont destinées à devenir des jeux vidéo, si vous voulez. Ça, on va en parler maintenant, si vous le souhaitez.
Oui, avec plaisir. Vous avez choisi aussi, dans vos choix cinéma, vous aimez beaucoup le film Romain, et
oui.
Pour une raison bien particulière, expliquez-nous.
C'est pour la même raison là, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça dénote un changement d'habitude, c'est un changement assez important. Moi, le cinéma, c'est pas du tout ma spécialité, mais je suis j'aime beaucoup regarder des films. C'est drôle de voir que ce film qui a reçu l'Oscar, c'est du cinéma d'auteur. Et qu'est-ce qui finance ça? C'est une plateforme, c'est Netflix. Donc, parce que vraisemblablement, Hollywood est en train de beaucoup moins ou de ne plus financer de cinéma d'auteur. C'est donc une plateforme qui finance ce film absolument magnifique, qui a reçu l'Oscar et pas pour rien.
Dans un instant, une petite surprise pour vous, à la fin du journal inattendu. Je vous laisserai réfléchir pendant la pub. A tout de suite sur RTL.
RTL, le journal inattendu. Julien Clerc est l'invité du journal inattendu sur RTL.
La jeune fille en feu gardait au fond du cœur un battement sur deux pour ses sœurs. La jeune fille en flamme au regard qui foudroie portait le cri des femmes dans sa voix.
On ne pouvait pas parler de Terrien sans parler de cette chanson extraordinaire. La jeune fille en feu, magnifique titre de votre album, écrit par Jeanne Chéral, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Elle traite des abus sexuels commis sur des jeunes femmes et la trace indélébile et terrible que ça laisse toute une vie. Le désarroi, l'incompréhension dans lesquelles ces femmes peuvent se retrouver, c'est une chanson puissante. Je vous avais promis une surprise, la voici. Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour Ophélie et bonjour cher Julien.
Comment ça va Jeanne?
Merci d'être avec nous en direct sur RTL, Jeanne Chéral. C'est un plaisir d'avoir avec nous l'auteur de cette chanson sublime.
Ben ouais, mais je suis heureuse parce qu'on ne s'est pas parlé de vive voix, Julien, depuis la sortie de votre album, et je suis contente de vous entendre.
Mais oui, moi aussi, très contente. Et puis je vous remercie en direct de m'avoir offert ce texte-là dont tout le monde me parle. Et je suis fier de pouvoir porter une partie de ce combat-là grâce à vous.
Vous avez dit, Julien Clerc, qu'elle vous avait fait un magnifique cadeau.
Oui, c'est
avec
un
ce
cadeau.
Texte,
oui.
Jeanne Chéral.
Mais c'est vrai que, d'abord, j'ai eu une petite pensée pour Dabadi, parce que sans doute s'il ne m'avait pas écrit « Femme, je vous aime » un jour, peut-être
ouais,
Jeanne l'aurait... vous n'auriez peut-être pas eu l'idée de me donner ça.
Mais c'est vrai, quand vous m'avez suggéré de vous écrire un texte, déjà, je vous ai beaucoup réécouté. Enfin, je me suis isolée un petit peu quelques jours dans une petite maison à la campagne et je vous ai beaucoup réécouté pendant 2 jours. Et j'ai tellement scotché, je connaissais par cœur « Femme, je vous aime », mais je l'ai beaucoup réécouté. Et c'est ce texte qui est venu, quoi. Et je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais écrit pour n'importe qui. Enfin, il faut avoir la sensibilité pour porter des paroles comme ça.
Jeanne, on écoute un petit peu « Femme, je vous aime ». Vous nous avez fait envie.
Je n'en connais pas.
C'est une version grand studio d'RTL et c'était en 2016.
Je n'en connais que de fragiles.
Quelques semaines de recul, maintenant, vous vous attendiez tous les deux à ce que l'on parle autant de cette chanson, à un tel retentissement. Il y a Mon Refuge qui porte l'album, et puis il y a La Jeune Fille en Feu, quoi. C'est vraiment les deux chansons phares de cet album.
Moi, dès que j'ai reçu le texte, je m'en doutais, me suis vraiment appliqué sur la musique. J'ai eu de la chance, parce que l'air m'est venu tout de suite. Nous étions sortis ce soir-là, et puis j'ai composé la chanson comme ça, tout doucement, pour pas réveiller la maison, avec le piano.
Ah, mais c'est vrai qu'il y a une alchimie, hein, c'est vrai, vous avez tellement bien servi le texte, enfin, c'est un honneur hein, d'avoir une mélodie aussi évidente et aussi forte pour un propos pareil, quoi.
Oui, et puis quand on chante dans un tour de chant, et c'est bien d'avoir des moments comme ça qui sont très très différents dans un tour de chant. Alors, je peux vous dire, Jeanne, que c'est une chanson qui va m'accompagner tout le reste de ma vie de chanteur sur scène.
Oh, ça me touche tellement.
C'est vrai que c'est un que l'on vit en direct.
Bah oui, ça m'émeut. Et c'est un sujet tellement important, tellement fort. Et j'ai l'impression, en tant que femme, qu'on est en train de traverser une période de révolution.
Oui, c'est une révolution, bien sûr.
Vous êtes une femme engagée, Jeanne Chéral. Évidemment, l'actualité fait prendre à votre chanson une toute autre dimension. La parole se libère comme jamais. Qu'est-ce que ça provoque en vous, femme engagée ?
Oh bah ça provoque un enthousiasme très fort et j'ai l'impression que c'est une chance de vivre la période qu'on est en train de vivre en ce moment. Enfin, c'est vrai que la parole des femmes n'a jamais eu autant de retentissement. J'ai l'impression qu'en ce moment, enfin, moi je me sens très reconnaissante vis-à-vis des militantes des années 70 qui ont ouvert ce combat, quoi. Il y a toujours eu des femmes pour porter cette voix sororale, j'ai envie de dire, mais en ce moment, c'est inédit, c'est très fort et je suis heureuse de ça.
Il faut avoir une pensée, je pense. Vous avez raison de parler des militants des années 70. Il faut avoir une pensée toute particulière pour Gisèle Halimi, qui a été la figure de proue. Moi, j'ai eu la chance, vraiment, la vie m'a fait ce cadeau aussi, que vivait avec Miu Miu à l'époque et nous avons partagé quand même quelques années comme ça, où on se voyait très souvent. Je ne me rendais pas compte à l'époque de l'importance du travail qu'elle était en train de faire.
Quel regard, Jeanne Chéral, vous aviez sur Julien Clerc avant de collaborer pour cette première fois avec lui ?
Pour moi, Julien Clerc, ça a toujours été une force de composition, enfin une inspiration. J'ai l'impression que c'est un compositeur inspiré comme personne, quoi. Enfin, il y a des mélodies, la mélodie de Ma Préférence, ou c'est des mélodies qui sont à la fois évidente parce qu'elle reste tout de suite dans l'oreille et en même temps quand on se penche dessus, j'ai fait ça l'autre jour, je me suis penchée sur La Jeune Fille en Feu parce que j'avais envie de la chanter et je me suis rendu compte que ce qui était en apparence très simple était finalement très très élaboré, l'air de rien, et je trouve que Julien Clerc, il a cette force-là.
Mais j'espère que vous la chanterez, Jeanne.
Ah Ah ouais, je crois que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher.
J'espère bien.
Et on vous souhaite de faire d'autres chansons ensemble.
Oui, bien sûr. Ben ça, on en refait ensemble.
Ben, merci. Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Jeanne Chéral, pour ce beau cadeau, pour cette petite surprise d'avoir regardé le secret jusqu'à aujourd'hui. À très bientôt. On espère vous retrouver sur scène aussi, très vite, pour votre tournée. À bientôt, Jeanne Chéral. Merci, Julien Clerc, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris les commandes du journal inattendu, de nous avoir parlé avec ces si jolis mots de Terrien. Votre dernier album est bien sûr disponible. Et je rappelle que vous serez la semaine prochaine l'invité du Grand Studio RTL avec Éric Jean-Jean. Et juste avant, vous participerez au Grand Visio. C'est une nouveauté. Les auditeurs peuvent s'inscrire sur rtl.fr et avoir la chance de dialoguer avec vous en visio.
Génial. Moi, je suis ravi de vous voir. Inscrivez-vous.
Le message est passé. Si vous nous rejoignez, cette émission est à retrouver en replay sur notre nouvelle application RTL. Tout de suite, Jean-Alphonse Richard, confidentiel consacré à la princesse Margaret. Mon invité la semaine prochaine, Michel Bernier. Très bon week-end à tous et à samedi prochain, 12h30.
Jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions.
RTL, le journal inattendu. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.